Vous écoutez RTL.
RTL, première radio de France.
La curiosité est un vilain défaut.
Tout le monde peut saisir les prud'hommes à partir du moment où on est dans une relation de travail avec une autre personne.
RTL.
L'audience commence par un préalable qui est une conciliation, ou en tout cas une tentative de conciliation.
Jusqu'à 22h.
À l'issue des audiences de plaidoirie, l'affaire est mise en délibéré. Le délai varie, ça peut être de 1 à plusieurs mois.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Les prud'hommes, on en a tous entendu parler. Parfois même on se dit quand un patron nous embête un peu, tiens, je le traîne bien devant les prud'hommes, et puis on le fait pas toujours, d'autres le font. Mais comment cette justice fonctionne vraiment, cette justice du travail que le ministre de l'économie d'ailleurs veut réformer? On en a parlé aujourd'hui dans l'actualité, on va en parler tout à l'heure avec notre invité. On l'a dit, bienveillante envers les salariés, dure avec les patrons, cette justice du travail, c'est vrai ou pas? Bonsoir Véronique Broca.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste et vous avez passé 2 ans dans les coulisses des conseils des prud'hommes de Paris.
Pourquoi
déjà vous avez choisi ce thème des prud'hommes?
En fait, à l'origine, j'ai été citée comme témoin dans une affaire aux prud'hommes. Et donc, ça a été l'occasion pour moi d'y rentrer pour la première fois et de découvrir cette justice que je ne connaissais pas, comme presque tout le monde d'ailleurs. Et là, j'ai assisté donc à l'audience. Et je me suis dit, qu'est-ce qui se passe ici? Ça vaut vraiment la peine de découvrir quelle est cette justice, cette juridiction.
Qu'est-ce qui vous a choqué ou étonné?
Parce que j'avais suivi beaucoup d'audiences judiciaires du temps où j'ai tourné la chronique judiciaire de Libé, et il y avait quand même de l'or, des apparats, du sang, des larmes, quelque chose de dramatique. Et là, il y avait rien de tout ça. Je voyais une justice extrêmement pauvre, des salles d'audience sinistres, dénuées de tout apparat, juste avec sans rien, sans fenêtre, avec une petite Marianne en plâtre dans un coin, avec des juges qui ne sont pas en habit puisqu'ils ont ils ont leurs habits civils. Ils ont juste une médaille pour les différencier.
Mais ce sont des représentants des salariés et des patrons, c'est
et
ça.
Et des patrons.
Hein.
Tout à fait.
Il y en a combien d'ailleurs?
Sur l'ensemble de la France, il y a 14 512 conseillers.
Et dans une salle d'audience, ils sont quatre. Deux de chaque côté, en fait.
C'est la parité, la célèbre parité des prud'hommes, puisque les juges sont forcément deux juges qui sont issus du collège des salariés et deux juges qui sont issus du collège des employés. On dit des patrons, ce que vous voulez, mais donc ils sont quatre. Et ils rendent une justice, quand ils doivent prendre une décision, il faut qu'ils la prennent à trois. Donc, ce qui fait que, forcément, l'un du collège des salariés ou du collège des employeurs doit s'effacer pour donner une majorité à la décision.
Alors les prud'hommes,
on ne sait pas d'ailleurs.
On va revenir sur ce fonctionnement et les prud'hommes, on en parle dans l'actualité aujourd'hui avec le ministre de l'économie Emmanuel Macron qui veut lancer une réforme de l'institution. On dit que c'est une réforme sensible. Pourquoi? Parce que c'est compliqué. Qu'est-ce qu'il veut réformer déjà?
Déjà, il y a eu le ministre du Travail, hein, François Rebsamen, qui a commencé à vouloir la réformer, cette justice, parce que les conseillers prud'homaux, les juges prud'homaux sont élus par nous-mêmes tous les 5 ans. C'est une élection à laquelle personne ne va, puisque c'est le plus gros taux d'abstention, c'est-à-dire 75% d'abstention. Je ne sais pas si vous avez déjà reçu des papiers pour élire...
Tous reçu ça, oui.
On n'y comprend rien, en plus, c'est extrêmement compliqué. Donc finalement, soit on le fait, soit on ne le fait pas. En général, on ne le fait pas. Et donc c'est une justice, c'est une élection qui est extrêmement peu populaire et extrêmement chère, puisqu'elle est à peu près au niveau du coût par électeur, c'est à peu près la même qu'une élection présidentielle, c'est à peu près 100 millions d'euros. Donc vous avez cette équation, les gens, une grande abstention, un coût cher, ils ont commencé à se dire, peut-être qu'on peut faire autrement. Donc la question, la représentativité des juges a été posée. L'idée aujourd'hui, si j'ai bien compris, c'est de l'élection à passer une désignation.
C'est-à-dire avoir des juges professionnels en quelque sorte.
Ça sera, les juges resteront des juges issus de la société civile, patron ou salarié, mais en revanche, au lieu d'être élus par les salariés et les employeurs, ils seront nommés par les organisations syndicales représentatives. Donc c'est un peu compliqué, toujours compliqué quand il s'agit de nommer les prud'hommes, mais en gros, voilà ce qu'ils veulent faire, du coup ça sera moins cher.
Bon, on verra bien, de toute façon ça va prendre du temps. Ouais. Vous avez donc passé à intervalles réguliers, hein, deux ans à suivre les audiences des prud'hommes. Vous dites c'est le parent pauvre de la justice. Est-ce qu'elle est bien rendue, la justice, dans ces salles ?
Dans un premier temps, on peut penser que non. Parce qu'on ne comprend pas vraiment quelles sont les décisions, pourquoi ils les ont prises. Et puis, quand vous commencez à regarder les choses, les chiffres, vous apercevez que, finalement, les décisions des prud'hommes ne sont pas si mauvaises. Et ça, on le sait pourquoi. Parce que, comme toute décision, vous pouvez aller en appel. Donc là, on a les chiffres de la cour d'appel. Les prud'hommes, c'est la justice où il y a le plus grand nombre d'appels de toutes les juridictions réunies. Et quand vous arrivez en cour d'appel, la cour d'appel, forcément, qui est faite de juges professionnels, voilà, à qui on ne peut pas supposer ne pas connaître le droit du travail, en fait, on s'aperçoit qu'ils donnent raison. Quasiment 70% des affaires qui vont devant la cour d'appel sont pour les prud'hommes. Dans les 30%, 20% sont non seulement pour la décision de prud'hommes, mais aggravent les condamnations. Enfin,
ça veut dire que c'est en faveur des salariés, c'est ça ?
Non, ça veut dire que la cour d'appel confirme la décision première instance.
Voilà,
c'est ça.
En l'état, 70%, elle augmente les sommes à verser aux salariés, enfin aux plaignants, de 20%. Il reste donc 10%, dont 5%, effectivement, c'est des jugements qui sont cassés par la cour d'appel.
On continue dans un instant cette immersion au cœur du Conseil des prud'hommes de Paris, grâce à vous, Véronique Brocard. On va s'asseoir sur un banc, assister à quelques audiences, écouter des histoires d'hommes, de femmes et d'entreprises. C'est dans un instant sur RTL.
Vous écoutez RTL.
Denis Bonnec, Thomas Hugues.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL.
Ce soir, dans la curiosité, on pousse la porte des prud'hommes, cette institution qui règle les conflits entre salariés et employeurs, grâce à Véronique Brocard, qui a passé deux ans à suivre régulièrement des audiences prud'homales à Paris pour un livre qui est publié chez Stock. On trouve qui, tiens, dans ces audiences ? Est-ce que c'est forcément des ouvriers, des salariés, ou est-ce qu'on peut monter jusqu'au niveau supérieur de l'entreprise ?
Ben, vous trouvez tout le monde, tous les salariés que vous imaginez. Imaginez un supermarché, ben voilà, vous avez à peu près le supermarché. Il n'y a pas de particularité spécifique dans les gens qui vont aux prud'hommes.
Est-ce que les patrons peuvent saisir les prud'hommes ?
Ou des cadres dirigeants ?
Les patrons ne peuvent pas, il faut qu'ils soient salariés. Mais ce qui est très très notable ces derniers temps, c'est que la section encadrement, qui juge donc les cadres, qui s'occupe des cadres, est en train d'exploser tellement les saisines augmentent. C'est celle qui a le plus de contentieux qui arrive, parce qu'en fait ce qui se passe, c'est que le cadre qui était partie prenante de l'entreprise, protégée, etc., ne l'est plus du tout. Il connaît lui aussi une fragilité de l'emploi, une insécurité. Et du coup, vous avez eu d'abord les cadres, les petits cadres, puis les moyens cadres, puis les grands cadres qui eux-mêmes avaient viré les petits moyens cadres. Et maintenant, vous avez des très grands cadres. C'est-à-dire que vous avez des DRH qui viennent, qui ont été eux-mêmes licenciés dans ce maelstrom de ce qui s'appelle le monde du travail d'aujourd'hui.
Vous avez assisté à certaines de ces audiences avec, par exemple, je sais pas, un cadre dirigeant. Est-ce que c'est différent ? Est-ce que du coup, il a une façon de s'exprimer ? Il se défend tout seul ? Est-ce qu'il a un avocat qui l'a payé plus cher ? Est-ce qu'on sent la différence ?
La différence, c'est que quand vous allez, par exemple, à la section du commerce ou la section des activités diverses qui s'occupe d'à peu près, par exemple, de tous ceux qu'on ne peut pas mettre dans les cases, souvent, là, vous voyez des gens qui viennent seuls, qui réclament des petites sommes, qui tiennent frébrilement leur petit dossier. Et vous sentez là la misère et la fragilité des gens. Dans l'encadrement, chez les cadres, là, il y a une machinerie qui se met en place. Il y a tout autant de souffrance, tout autant d'angoisse, tout autant d'envie de gagner. Mais il y a beaucoup d'avocats.
Alors justement, Véronique Brocard, quelles sont les affaires qui sont le plus traitées au prud'homme ? C'est quoi ? Ce sont des licenciements, le non-paiement d'indemnités ?
Bon, écoutez, moi, j'ai pas les statistiques globales de tout l'ensemble des prud'hommes, mais disons celles qui arrivent. Il y a une phrase qui est comme un mantra aux prud'hommes, qui est licenciement pour cause abusive Et ça, c'est pour cause réelle et abusive. C'est-à-dire que là, c'est en permanence demandé, et c'est ce que vous entendez de façon lancinante, en fait. À chaque affaire, il y a cette phrase-là qui arrive.
Le droit du travail, ça peut sembler aride, austère, mais dans ces audiences, il y a de l'émotion, il y a de la passion.
Alors, comme je disais, ce sont des audiences où il n'y a ni sang, ni larmes à première vue. Mais en fait, vous vous rendez compte que les gens arrivent et ils mettent en 10 minutes, ils ont 10 minutes pour expliquer leur cas, essayer de gagner en 10 minutes. Et là, ils mettent sur la table toutes leurs tripes. Mais ça se voit pas comme dans une cour d'assises. Et vous sentez là beaucoup, beaucoup de tension et beaucoup d'humiliation. Et même chez les cadres, hein, c'est pas une question de catégorie sociale. Vous sentez que le travail les a usés, les a humiliés, les a cassés. C'est pour ça qu'ils sont là, d'ailleurs, hein. Autrement, ils ne seraient évidemment pas au prud'homme. Mais il y a je pense qu'il y a une vraie douleur. Et
vous pensez à une affaire en particulier, parce que dans votre livre Au cœur des prud'hommes, vous racontez ces histoires au fur et à mesure. Enfin, ça concerne des gens de tous les milieux. Il y a 1000 cas différents, c'est assez émouvant et fascinant.
Mais je pense à deux cas qui sont carrément différents socialement. Je me souviens d'une femme qui était travailleuse immigrée, sans papier vraisemblablement, qui était femme de ménage et qui poursuivait son employeur au prud'homme, et le poursuivait en plus physiquement dans les couloirs en brandissant sa feuille de paye, puisqu'elle était payée 4,55 € brut de l'heure. En hurlant, c'est un esclavagiste, condamnez-le, condamnez-le. Et c'était vraiment une espèce de tension, c'est extrêmement rare qu'il y ait des cris au prud'homme. Et de l'autre côté, je me souviens aussi d'une jeune femme russe, bilingue, qui est partie à Moscou avec un contrat de travail en poche. Elle a libéré son appartement, elle a quitté son emploi à Paris, elle arrive à Moscou, elle doit travailler dans les ressources humaines, elle mange avec celui qui l'embauche, et au bout de 2 heures du repas, on lui dit non, tu n'es pas embauchée. Donc elle était 2 heures à Moscou et virée. Elle avait tout quitté, elle s'est retrouvée à Moscou sans rien, le patron potentiel lui avait payé son billet d'aller mais pas son billet de retour, elle n'avait plus d'argent, et elle était aussi mal que cette femme travailleuse immigrée qui revendiquait et son droit et sa dignité.
Elles ont eu gain de cause, ces deux femmes, parce qu'on a envie de connaître la fin de l'histoire.
Alors,
la femme
de ménage, elle a réussi, en faisant beaucoup de bruit, à convaincre son patron de lui changer sa veille de paie, donc il a mis 14,55 €.
C'est mieux que 4,50 €.
Voilà. Et donc il n'y a plus eu d'affaires. Ils se sont c'est une conciliation dans les couloirs, en fait. Hein, mais c'est
ça arrive
aussi.
Souvent, ça. Une espèce de tractation.
Je dis pas souvent, je sais pas, mais il y a des affaires qui se règlent après l'audience ou pendant l'audience. Et la jeune femme, en revanche, a eu tort.
La jeune femme russe qui a payé son billet pour aller à Moscou.
Elle a perdu.
Et pourquoi elle a perdu? Pourquoi elle n'avait pas été embauchée, d'ailleurs? On l'a fait venir à
Moscou. Justement, la question avait été posée par la présidente à l'audience, qui ne comprenait rien. Et en fait, c'est l'avocate qui lui a dit, écoutez, c'est un peu hors du droit du travail, évidemment, mais je vais vous le dire, à l'issue de ça, elle a compris au dessert qu'elle dormirait dans la maison de son employeur et qu'il fallait qu'elle soit très gentille. Et elle n'a pas voulu être très gentille.
Et ça, c'est du harcèlement moral. Et ça n'a pas sensibilisé les conseillers, les juges?
Non, parce qu'il faut savoir que les prud'hommes, c'est à la fois du bon sens.
C'est du harcèlement sexuel, pardon, plutôt.
Oui. Là, les prud'hommes, c'est du bon sens, parfois. Une espèce de justesse, un peu comme Saint-Louis sous son arbre. Hein, les prud'hommes, hommes de bien.
Ça vient de quelle époque, d'ailleurs?
Du 11e siècle. C'est pre-homme, homme bien, homme de bien, homme sage. Et de l'autre côté, quand même, il faut qu'ils rédigent leurs décisions sur des articles de loi et en droit. Donc, je pense que cette jeune femme était évidemment dans son droit d'être indignée, blessée, voilà, mais en droit pur, en droit du travail.
Elle aurait dû être plus prudente.
Peut-être qu'elle n'avait pas les papiers nécessaires.
Est-ce que c'est compliqué de saisir les prud'hommes? Est-ce que c'est cher? Quels sont les risques aussi pour un employé? Est-ce que ça se sait dans un milieu socio-professionnel? On continue de découvrir ce monde souvent fermé et méconnu grâce à notre invité sur RTL.
RTL. La curiosité est un vilain défaut. Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
Vous écoutez RTL.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL.
Nous sommes curieux sur RTL, on fait les petites souris et on se glisse aux côtés de Véronique Brocard, la journaliste qui a passé 2 ans dans les coulisses des prud'hommes. On se demandait, les salariés gagnent souvent aux prud'hommes ?
Alors les statistiques sont claires, c'est 70%
des cas
pour les salariés.
C'est beaucoup ?
Ce qui est normal, parce que en fait c'est mécanique. Vous allez au prud'homme parce qu'il y a eu un dysfonctionnement dans votre contrat de travail, l'application de votre travail. Donc si vous allez au prud'homme, vous avez des bonnes raisons de vous plaindre de votre employeur, et pour la plupart du temps, vous avez des pièces qui le prouvent. Donc c'est normal que sur cette base-là, les prud'hommes donnent favorablement des avis et des réponses aux salariés qui le demandent.
On parlait des affaires justement qui sont traitées, des types de plaintes déposées par les salariés. Dans votre bouquin Au cœur des prud'hommes, on découvre qu'il y a beaucoup d'entreprises qui disparaissent et que c'est un phénomène très courant. Enfin,
oui, alors
qu'est-ce que c'est une entreprise
vous avez
qui disparaît?
Vous avez des vagues de nouveautés dans l'imagination de certains employeurs véreux, quoi. Donc là, les entreprises qui disparaissent, c'est simple. En fait, c'est des entreprises qui, à la base, n'existent pas. C'est-à-dire qu'elles elles vivent comme si c'était une entreprise. Elles donnent des feuilles de paye qui ressemblent à des feuilles de paye.
C'est-à-dire que vous allez au travail, concrètement,
salarié. Vous allez au travail, vous travaillez, ouais, impeccable. Donc... Et puis, voilà, vous avez des bonnes relations, vous êtes payé tous les mois. Et puis, un jour... Vous revenez, il n'y a plus rien. Mais entre-temps, vous avez compris que l'entreprise n'avait un faux numéro de SIRET, donc ce n'est pas déclaré à la Sécurité sociale. Vous n'avez pas, dans votre carrière pour la retraite, ça n'est pas pris en compte.
Pas de point retraite.
Pas de point retraite. Et encore, la cerise sur le gâteau, c'est que comme vous n'avez pas la fameuse feuille qui vous permet d'aller à Pôle emploi signé par l'employeur, vous n'avez pas non plus
d'indemnité. Et pourquoi elles disparaissent, ces entreprises?
C'est fort pratique, parce qu'ils ne payent aucune charge, aucune cotisation. Donc c'est à la première bourrasque qu'ils partent.
Alors est-ce que n'importe quel salarié peut saisir les prud'hommes?
N'importe quel salarié.
Est-ce qu'il y a besoin d'un avocat, forcément?
À partir de 16 ans, vous pouvez saisir les prud'hommes, puisque ça concerne également les apprentis. Oui, alors non, vous n'avez pas besoin forcément d'un avocat. Pour les petites histoires où, par exemple, en référé, où il s'agit de condamner l'employeur à vous verser la moitié de votre carte Navigo, bon, là, vous n'avez pas besoin d'un avocat. En revanche, quand c'est des procès, enfin des complexes, là, vous avez vraiment quand même besoin d'un avocat.
Mais il y a beaucoup d'audiences comme ça pour des petites sommes.
Oui, tous les jours, il y a des références en référé. Il y a des gens qui demandent 100 euros, il y a des gens qui demandent le paiement des heures supplémentaires, il y a des gens qui demandent juste qu'on leur donne la feuille pour aller à Pôle emploi, en bonne et due forme, bien remplie.
Et comment on fait concrètement pour saisir les prud'hommes? Je suis sûr que beaucoup de gens qui nous écoutent ne savent pas.
Alors, je pense qu'il faut y aller.
Physiquement.
Enfin, je pense qu'on peut. Peut-être qu'on l'a sur Internet, je n'ai pas vérifié, mais en gros, c'est mieux d'y aller. Parce que vous avez des guichets. Et là, on vous donne une feuille que vous devez remplir, et il y a quelqu'un qui vous explique à peu près la procédure et qui vous donne, pour ceux qui n'ont pas les moyens, tous les numéros des avocats, de l'aide juridictionnelle ou qui vont permettre de.
Est-ce que c'est payant ? Est-ce que c'est payant ?
C'était payant, 35 euros, ça l'est plus. Madame Taubira a supprimé cette taxe.
Est-ce que c'est d'une justice rapide, les prud'hommes ? Ça se règle vite ?
C'est une justice extrêmement lente. Alors ça commence par la conciliation. Alors moi je n'ai pas pu assister à la conciliation parce que c'est à huis clos. Normalement qui devrait faire en sorte que les plaignants et les accusés, les salariés employeurs trouvent une solution, ça ne marche pas du tout. Ce qui est d'ailleurs un problème.
Ça c'est avant l'audience ?
Avant et après, quand ça ne marche pas, cette conciliation, on vous renvoie en audience. Là, ça peut durer, à Paris, ça peut durer un an. À Nanterre, c'est pire. En revanche, dans des conseils de prud'hommes de province, ça marche très bien. Mais globalement, pour ce qui est de Paris, qui est le plus gros conseil de prud'hommes de France, parfois vos affaires peuvent durer 3, 4, 5, 6 ans.
Pourquoi c'est surchargé à Paris ? Parce qu'il y a beaucoup de sièges sociaux d'entreprise, c'est quoi ? Ou il y a plus de salariés de manière générale et pas assez de conseils ?
C'est ça, il y a plus de salariés. Et les sièges sociaux, et surtout les sièges sociaux, ils sont souvent en banlieue, hein, Nanterre. Mais à Paris, il y a beaucoup d'entreprises, il y a beaucoup de salariés. Voilà, c'est la plus grosse ville de France, donc c'est le plus gros conseil de prud'hommes de France.
Et les salariés qui saisissent les prud'hommes, c'est parce qu'ils n'ont rien à perdre ? Parce que ça fait un peu peur parfois de saisir les prud'hommes. prud'homme, on a peur d'être un salarié qui effraie le patronat, par exemple, ou on a peur de perdre son boulot si on est encore au cœur d'une entreprise.
Bah, ce qui est complexe, c'est qu'ils ont rien à perdre, mais peut-être ils ont tout à gagner. Ça, c'est aussi intéressant au niveau financier. Mais surtout, pour aller au prud'homme, pour des choses lourdes, le plus compliqué, ce sont des salariés qui sont encore dans l'entreprise et qui demandent une requalification, qui demandent des choses comme ça. Parce que je ne sais pas comment on vit dans une entreprise en ayant poursuivi son employeur au prud'homme.
Là, on est sur des affaires graves, on parlait de l'affectif. Est-ce que parfois on rigole? Est-ce qu'il y a des moments cocasses auxquels vous avez assisté?
Ah ben, il y a des moments cocasses, oui, parce qu'on parle des employeurs, mais il y a des salariés qui parfois... s'amuse aussi avec le droit du travail.
Je me souviens,
il y a l'histoire qui m'a beaucoup amusée et dont la fin est assez surprenante. Mais c'est un gardien qui devait s'occuper de garder une caserne, considérant que c'était une caserne, donc elle n'avait pas besoin d'être gardée. Il réparait sa voiture. Arrive son patron qui lui dit bonjour. Alors lui, il voit pas le mal dans cette affaire. Il lui tend son poignet en disant excuse-moi, j'ai plein de graisse, voilà. Et puis tout va bien, sauf qu'il est viré. Il n'est pas content. Il n'est pas content, donc il va au prud'homme. Oui. Et il se plaint de son patron qu'il a viré.
Bien sûr.
Alors là où je n'ai pas compris, c'est qu'il a gagné.
Ah. Voilà. D'accord.
Mais bon, les prud'hommes avaient certainement les conseils.
De très bonnes raisons juridiques.
Et voilà.
Toutes ces histoires sont à lire dans Au cœur des prud'hommes, édition Stock. Passionnante radiographie du monde du travail. Merci beaucoup, Véronique Brocard.
Merci beaucoup.
Merci, Véronique Brocard. C'est la fin de cette émission, mais on peut la retrouver. On peut quoi
ben
là?
Oui, la podcaster sur RTL.fr. Vous essayez de me coincer, sinon on se retrouve demain.
Je crois que là-dessus, je peux difficilement vous coincer quand même. Oui, c'est sur RTL.fr qu'on peut podcaster cette émission. Sinon, demain.
Au programme, faites-nous rêver.
Allez, savez-vous où se trouve la forêt du Mundat, Munda, je ne sais pas comment ça se prononce, je le saurai demain. C'est l'île intermittente de Julia, l'île des démons. Ben nous non plus, on ne sait pas où c'est pour ça qu'on va vous emmener à la découverte des terres françaises oubliées, parce que c'est français la forêt du Munda.
Est-ce que saviez-vous pourquoi l'impératrice a été rebaptisée Joséphine par Napoléon, Thomas Hugues?
Non, ben non.
Bah décidément, vous savez rien.
Je ne sais rien du tout, mais c'est pour ça que je fais cette émission, c'est pour en apprendre.
Demain.
Et puis on ira chiner dans les objets d'Emmaüs. Ils ont plusieurs vies et des histoires émouvantes, comme les compagnons qui les remettent en état, vous verrez. Très belle histoire. Emmaüs, c'est une machine à fabriquer de l'espoir.
Vous écoutez RTL.